La pause philo.
La pause philo.
Un temps pour l'essentiel.
Bonjour à tous et bienvenue. On poursuit cette série spéciale sur le lien, la mer et le philosophe, titre éponyme du livre de Jean-Louis Siani qui se trouve juste à mes côtés. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour.
Jean-Louis Siani, vous devenez un habitué de cette émission avec ce feuilleton sur les mers et les philosophes et c'est avec grand plaisir que je vous retrouve. Je rappelle que vous êtes vous-même philosophe et essayiste. Jean-Louis Siani, je vous propose aujourd'hui de remonter au XVIIIe siècle pour mettre la lumière sur le philosophe francophone né à Genève en Suisse, Jean-Jacques Rousseau. Quels sont les liens que Jean-Jacques Rousseau entretient avec sa mère? Comment ce lien mère-enfant a-t-il eu une influence sur l'adulte et le penseur qui était Jean-Jacques Rousseau? Que peut-on en dire?
Bon, d'abord, c'est pas un lien, ça va être plutôt une absence de lien, puisque comme Rousseau, comme Descartes, Pascal ou encore Spinoza, ben, il fait partie des philosophes orphelins de mère. Et la mère de Rousseau, on va le voir, elle était très sensible et elle aimait les romans. Sa première mère, puisque le caractère exceptionnel de Rousseau, c'est qu'il a eu deux mères, en fait.
Deux mères? Alors, comment ça? Vous piquez notre curiosité, là, Jean-Louis Siani, c'est-à-dire?
Eh bien, il a eu une mère naturelle qui décède quelques jours, malheureusement, après l'avoir mise au monde, et une autre, une mère adoptive, Madame de Varens, qui finit d'ailleurs par devenir sa maîtresse. Il a eu un père aussi qui était inconsolable et qui a commencé son éducation et puis qu'il a abandonné, qu'il a livré à lui-même. Et on peut dire que la vie et l'œuvre de Rousseau, eh bien, elle résonne de cette enfance malheureuse, hein, puisqu'il illustre notamment la supériorité des sentiments sur la raison. Et c'est un philosophe de l'errance, hein, Rousseau.
Alors justement, avant de nous parler de ses mères, Jean-Louis Siani, rappelez-nous en quelques mots la philosophie de Jean-Jacques Rousseau.
Ben, précisément, on pourrait retenir trois caractères essentiels, enfin trois grands traits. C'est que, un, c'est le philosophe du sentiment. Hein, au XVIIIe siècle, on sort de la grande période rationaliste, donc c'est sentiment qui prend le dessus sur la raison. C'est aussi un grand philosophe de politique, hein, puisque c'est lui qui a jeté les bases de... Enfin, qui a écrit le contrat social, c'est-à-dire qui jette les bases d'une réflexion sur la démocratie qui va, dont les révolutionnaires vont largement s'inspirer.
S'en empérer. Hein.
Donc c'est les deux grands traits. Le troisième, eh bien, c'est toute sa réflexion sur la bonté originelle de l'homme, hein, l'état de nature, état qui est perverti par le développement de la société et des techniques.
Alors revenons à notre sujet. La philosophie de Rousseau illustre, vous l'avez dit Jean-Louis Siani, la supériorité des sentiments sur la raison et l'errance donc d'un enfant abandonné. Parlez-nous de sa première mère, sa mère naturelle.
Alors, elle est citoyenne de Genève, c'est Suzanne Rousseau, et elle meurt d'une fièvre puerpérale. Hein, quelques jours après la naissance de Jean-Jacques Rousseau, en juin 1712, à Genève. Donc, et dans les confessions, Rousseau en parle de cette façon. « Je naquis infirme et malade, je coûtais la vie à ma mère, et ma naissance fut le premier de mes malheurs. » Alors, vous voyez que c'est une phrase, comme tant d'autres chez Rousseau, où il se met au premier plan et s'accuse de tout. Parce que la fièvre puerpérale, c'est une infection post-natale, qui ne doit rien à l'enfant, mais plutôt aux conditions médicales de l'accouchement.
Donc, bon, c'est pas sa faute. Hein.
Voilà, il le savait peut-être pas, vu l'état de la médecine, mais il le dit comme ça. Hein. Donc, au moment où il commence sa biographie, il a quand même déjà plus de 50 ans, c'est pas la mort de sa mère que Rousseau considère comme un malheur, mais précisément sa naissance à lui, à l'inverse. Hein. Donc, la mère, elle disparaît, elle se retire finalement dans son absence. Mais toujours, Rousseau va rester cet enfant un peu troué, avec un grand vide intérieur, ivre d'amour sans objet, comme il le dit lui-même dans une belle expression, et qui va chercher, sans jamais la trouver, une sorte d'unité première qui a été perdue, dont il a été privé. Il m'aurait fallu deux âmes dans le même corps, sans cela je sentais toujours du vide. Hein, voilà, c'est un enfant sans mère, un enfant malade aussi, et surtout un enfant coupable.
Un enfant qui se sent coupable, et son père dans tout ça?
Alors son père, il a un rôle assez étrange, hein, puisqu'il fait l'éducation, mais d'une manière désastreuse. Hein. Quand la peine le submerge après la mort de sa femme, bon, il saisit son fils et lui dit « Rends-la-moi, console-moi, remplis le vide qu'elle a laissé dans mon âme ». Et l'enfant, en fait, rappelle sa mère à son père. Hein. Dès qu'il le voit, son père pense à sa mère. Il est un peu la réincarnation de sa présence, la durée de sa présence. Il croyait la revoir en moi. Hein. Voilà ce que nous dit, ce que nous dit Rousseau. Et le père, alors, lui lit les romans de la mère qu'il a dans sa bibliothèque, jusqu'à l'aube, parfois. Donc, il l'excite, en fait. Hein. Il le surexcite. Je n'avais aucune idée des choses... que tous les sentiments m'étaient connus, je n'avais rien conçu, j'avais tout senti. Il y a une sorte d'éducation sentimentale du père, du fils, par le père. Mais bon, c'est aussi quand même une sorte, un dressage un peu pervers. Hein. Et puis un jour, après une querelle avec un autre Genevois, eh bien, le père s'en va et laisse Jean-Jacques Rousseau à un pasteur.
Il l'abandonne son fils.
Et donc là, cet événement est à l'origine d'une adolescente errante et d'une vie de vagabondage, de squat, d'exclusion. Et vous le savez, hein, toute sa vie va être faite comme ça, d'exclusion, avec les philosophes, avec Diderot, des crises de paranoïa jusqu'à la fin de sa vie. Et toute son existence est placée sous le signe du rejet, de l'abandon. Et lui-même, d'ailleurs, sera incapable de fonder véritablement une famille, puisque même s'il écrit un livre sur l'éducation, et il abandonne ses cinq enfants.
Il abandonne lui aussi ses cinq enfants. Alors là, vous nous faites découvrir la face cachée hein, de Jean-Jacques Rousseau, Jean-Louis. Alors, dites-nous en plus, dans son errance, c'est là qu'il rencontre sa deuxième mère ?
Oui, alors il rencontre Madame de Varens, et il va vivre une sorte d'enfance à retardement, avec cette jeune femme qui est pleine de grâce autant que d'esprit, qui est généreuse, ouverte, qui accueille chez elle toute la misère du monde. Hein. C'est une femme de cœur, mais elle est libérée d'un mariage assorti et elle accueille aussi facilement des amants de passage. Donc elle va jouer d'abord le rôle d'une sorte de dame protectrice. Hein. Il s'appelle Petit, c'est le surnom qu'elle lui donne, et lui l'appelle Maman. Hein.
Donc c'est vraiment affirmé comme.
Ah oui, c'est très fusionnel. Et donc on a l'impression que cet adulte qu'il est en train de devenir, il met sa croissance physique et affective en suspens. Il arrête son horloge intérieure. Et il s'invente une sorte de mère pour vivre à ses côtés, la félicité première du bébé. Hein. Avec toutes les audaces et les extravagances qui sont propres à sa sensibilité, qui est particulièrement sensible, excitable, on a vu pourquoi, dans son enfance.
Et un jour, cette mère devient aussi sa maîtresse.
Voilà, un jour, ses amours régressives, fusionnelles et platoniques, eh bien, changent de registre, et elle prend l'initiative, et elle décide de le traiter en homme. Il accède enfin au plaisir, mais il perd son bonheur, et il dit lui-même... qu'il pleure sur le sein qui le fait jouir, et il dit « j'étais comme si j'avais commis un inceste ». Voilà,
donc
tout est dit de cette relation étrange.
C'est très explicite. Alors justement, en quoi cette enfance a-t-elle orienté la pensée de Rousseau ?
Eh bien, le premier point, c'est que c'est l'errance. Hein. Il le dit lui-même, il dit « je ne puis méditer qu'en marchant ». La pensée de Rousseau, elle est le produit d'un enfant vagabond. C'est-à-dire, c'est réellement, il est parti marcher en plein air.
Physiquement.
Physiquement, il a quitté Genève. Et il le dit, la marche a quelque chose qui anime et active mes idées. Je ne puis penser quand je reste en place. Vous voyez, c'est déjà un hyperactif de l'époque. Hein. Donc, il y a déjà ce mouvement du corps. Mais il n'y a pas que ça. Hein, parce que quand il est à l'extérieur, eh bien, il est... dans la nature, et on sait le rôle que va avoir la nature dans l'œuvre de Rousseau, et c'est agréable, c'est le grand air, et comme loin de se retrouver face à face, tout seul avec lui-même, au contraire, il dit « j'obtiens le dégagement de mon âme », c'est-à-dire qu'il se sent libre, et il bascule dans un état de fusion avec la nature. Voilà, et il dit, il rêve, il fait des associations d'idées, mais ma vie entière n'a été qu'une longue rêverie, divisé par mes promenades de chaque jour. Vous voyez, donc, l'errance s'inscrit au plus profond de sa vie intérieure.
Et de sa pensée.
Et donc de sa pensée et de sa philosophie.
Pour conclure...
Peut-être, juste encore un mot, dire que toute sa réflexion sur l'état de nature, l'innocence première, elle est aussi, elle vient de là, hein, l'innocence première de l'homme. Disons que, et sa pensée politique aussi, puisqu'il dit « l'amour du genre humain n'est rien d'autre que l'amour de la justice ». Voilà, il fallait finalement, on dira, un enfant abandonné, pour poser les fondements d'une société nouvelle, plus juste et peut-être plus solidaire. Ça nous donne peut-être une idée à réfléchir sur tous les abandons qui sont en cours dans notre société.
Exactement, merci beaucoup Jean-Louis Siani. Je rappelle que vous êtes philosophe, auteur notamment de La mer et le philosophe aux éditions Le Bordelot. Jean-Louis Siani, je vous retrouve pour un prochain numéro avec un nouveau philosophe à nous faire découvrir dans sa relation méconnue avec sa mère.
Avec plaisir, le feuilleton continue.
Merci beaucoup, merci à tous de votre fidélité sur Radio Aviva.
La pause philo.
La pause philo.
Un temps pour l'essentiel.